Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends nombreux pour des enregistrements du Jeu des 1000 euros en public en Seine-Saint-Denis. Demain mercredi à Aulnay-sous-Bois, au Conservatoire à 18h30. Et jeudi le 16 décembre à Bondy, à la salle André Malraux à 20h30. Les sélections se font sur place à la même heure.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Mais bonjour, voilà un tout petit texte. Dans les pages qui suivent, les différentes perturbations ne seront pas traitées comme autant de dossiers séparés ni de manière systématique. Ma démarche sera plutôt celle d'un veilleur de nuit dans un jardin au lendemain d'une tempête, et alors qu'une autre plus violente s'annonce. Muni d'une lampe, l'homme chemine d'un pas prudent, oriente son faisceau vers un massif, puis vers l'autre, explore une allée, revient sur ses pas, se penche au-dessus d'un vieil arbre arraché. Ensuite, il se dirige vers un promontoire, éteint sa lumière et cherche à embrasser du regard le panorama tout entier. Il n'est ni botaniste, ni agronome, ni paysagiste, et rien dans ce jardin ne lui appartient en propre. Mais c'est là qu'il habite avec les personnes qui lui sont chères, et tout ce qui pourra affecter cette terre le concerne de près. Et bien, c'est Amin Malouf, le dérèglement du monde. Et puis, je voudrais conseiller à tous vos auditeurs de lire ce livre, qui est extraordinaire et qui me donne encore l'envie de vivre.
Salut Daniel, salut toute l'équipe. Ceci est un message pour tous les auditeurs de Catalogne Sud. Juste pour vous dire que le dernier Café Repère de 2010 se tiendra ce soir à Barcelone. Et on parlera d'école et de démocratie. On passera par l'éducation populaire, l'école de la République et l'université libre. Voilà, donc l'école et la démocratie, c'est le Café Repère de ce soir à Barcelone. On se retrouve, comme d'habitude, à partir de 20h30 au Glaciar, chez Christian, sur la place Aréale de Barcelone. Et pour optimiser votre soirée, un devoir d'entraînement facultatif est disponible en ligne sur le blog La Barna, si j'y suis. Salut!
Bonjour à tous, bonjour Daniel, c'est Christophe de la Salle. Un petit mot du Gard pour annoncer un rassemblement devant la sous-préfecture du Vigan ce mercredi 15 décembre à 10h à l'appel du collectif d'alerte des Cévennes méridionales. Et c'est qui ça? Eh bien, on est tout simplement un groupement d'associations soutenu par de nombreux élus locaux, conseillers généraux, équipes municipales, parce que, encore une fois, c'est l'État lui-même qui met en danger la survie du territoire, avec une mesure dramatique pour tout le monde et pour le secteur non commercial et les associations locales particulièrement. Nous avons appris récemment que tous les emplois aidés, les fameux CAE et CUI, ne seraient pas renouvelés à compter de fin octobre, et il paraît que pour nous, il n'y a plus de sous, c'est dommage. Et du coup, ce sont des centaines d'emplois déjà précaires qui sont détruits du jour au lendemain. C'est une mesure nationale descendue du ciel préfectoral pour la Saint-Nicolas et relayée sans état d'âme par Pôle emploi. C'est beaucoup d'aspects de la vie de tous les jours qui vont être touchés par ces mesures de restriction, les crèches, les cantines, les soutiens scolaires, les lieux d'accueil de la petite enfance et aussi l'organisation de stages, de concerts, les ateliers de formation, les écoles de musique, les chorales, les médiathèques, les associations de prévention qui par définition ne sont pas à vocation commerciale ni lucrative et qui se retrouvent sans salariés du jour au lendemain. En fait, l'enjeu, c'est la survie de tout ce qui fait la vitalité du territoire. Ah, quel homme politique saura dire la magie du bénévolat, le sentiment d'extase profonde qu'on éprouve à travailler toujours plus pour gagner de moins en moins. Alors, si vous vous sentez concerné, eh bien, venez nous rejoindre devant la sous-préfecture du Vigan, mercredi à 10h. À bientôt.
C'est Paul de Lyon. Voilà, je téléphonais parce que ce lundi soir, je viens d'entendre aux informations de France Inter que l'Union européenne allait prendre peut-être des sanctions contre la Côte d'Ivoire si elle ne respectait pas le processus démocratique, ce qui est très bien, et j'attends que l'Union européenne prenne des sanctions contre la Chine qui ne respecte pas le processus démocratique par rapport au prix Nobel de la paix. Voilà, et ben on attend.
Le repère de Clermont-Ferrand ne connaît pas la crise, et les auditeurs modestes et géniaux de là-bas si j'y suis sont invités à se réunir ce jeudi 16 décembre à 18h au Baroque Café, 5 boulevard Trudaine. Nous cogiterons et échangerons sur le thème de l'énergie, les énergies fossiles, renouvelables ou pas. À jeudi, chers camarades.
Bonjour à tous les AMG, la chasse anti-rom, ça continue. Depuis les événements de Saint-Aignan de cet été, la chasse aux Roms est ouverte. À Grenoble, leur sort n'échappe pas à la règle. Expulsion et destruction de leur camp de fortune cet été. Une soixantaine d'entre eux, avec le soutien d'associations, décident d'occuper une ancienne aire d'accueil de gens du voyage. Des associations leur fournissent des tentes et construisent une maison en bois de 50 mètres carrés avec gazinière, chauffage, table et chaises, et était prévue également une salle de classe pour les enfants. Face à ce nouveau camp émergent, la mairie et la préfecture sont bien emmerdées. Coup de chance, il neige plein pot le mercredi 1er décembre, 25 cm. Alors dans leur bonté et leur humanité, les autorités locales, préfecture, le Doiron nommé par Sarkozy, cet ancien flic qui est arrivé pour déloger l'autre préfet, et Desto, maire PS, ont décidé de reloger dans l'urgence ces pauvres R. Les familles avec enfants dans des hôtels ou bâtiments libres, et les autres, les adultes, dans un hangar sans chauffage, et gardés par des nervis de la préfecture et du privé, et avec la promesse de pouvoir récupérer leur peu d'effets personnels qui étaient restés dans leur tente le lendemain sur leur camp abandonné. Le lendemain, de retour au camp, les bulldozers s'occupaient déjà de tout raser. Tentes, vêtements, couettes, jouets, biens personnels, tout était détruit. La baraque, idem. Deux jours après, le radoucissement étant là, les Roms sont de nouveau à la rue. Le hangar est fermé, la chasse aux Roms est de nouveau ouverte.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. Notre prochain rendez-vous c'est demain soir à 20h30 à l'Estaminet, toujours à Verdun. Cette fois-ci, nous avons la chance d'accueillir des représentants de l'association Cigale qui vont nous faire un petit topo sur la gestion alternative et l'épargne solidaire. On vous attend nombreux demain soir à partir de 20h30, donc à l'Estaminet à Verdun. À bientôt.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Bien, figurez-vous que j'ai découvert un mot dont Jean-François Copé est le maire, une église au nom bizarre, une église au nom qui m'a surpris et ma foi pourtant. Notre-Dame du marché, vous avez bien entendu, Notre-Dame du marché, un mot. Et devinez qui est le petit bedeau, ah bon.
Ah ben, on est en train de chercher qui peut être le petit bedeau. Merci en tout cas, chers AMG, pour tous ces messages qui montrent que grâce à la base Si J'y Suis, nous n'avons jamais les oreilles loin du front. Et là, on y va sur le front. Sur le front de quoi donc ? De l'origine de nos portables. 4 milliards de portables au moins sur cette planète qui chacun comporte quelques grammes de Congo. Oui, il y a quelques grammes de Congo dans chacun de nos portables et très probablement des morceaux du Congo où nous sommes, c'est-à-dire au Kivu, où l'on trouve un minerai très très précieux, très important, un minerai stratégique qui s'appelle le coltan, colombo tantalite. On a pris les premières lettres, col et tan, et ça donnait coltan. Ce minerai est indispensable dans nos portables, dans nos ordinateurs, dans nos consoles de jeux, mais aussi dans certains équipements stratégiques, militaires, aéronautiques et dans l'armement. Très très important ce minerai, qu'on trouve également en Australie, mais pas de la même qualité. Donc, c'est un enjeu extrêmement important que ce coltan. Il y a une ruée sur ce minerai autour de 2000, une véritable ruée vers cet or gris qu'est le coltan. Il y a d'autres minerais très importants comme la cassitérite dont on fait l'étain, qui remplace désormais le plomb dans toutes ces constructions d'appareils que je viens de citer. C'est un autre minerai, mais moins important que le coltan. Comment expliquer que ce qui aurait dû être une aubaine, évidemment, pour cette région, pour ce pays tout entier, désormais baptisé République démocratique du Congo, ça aurait dû être une très bonne nouvelle. Eh bien, c'est exactement l'inverse. Au lieu d'être une aubaine pour les populations, c'est une véritable malédiction. Ça date pas d'hier, depuis que Léopold II, le roi des Belges, il a jamais mis le pied lui-même, mais a fait mettre le pied par les siens dans cette région. À l'époque, c'était le caoutchouc, c'était l'ivoire. Eh bien, les richesses naturelles de ce ventre mou qu'est le Congo a été une malédiction pour les habitants, que ce soit aujourd'hui le coltan, mais aussi bien l'or, mais aussi bien les diamants, mais on le verra, le cuivre au Katanga. À chaque fois, ça a été les mêmes mécanismes de prédation, d'extorsion, et très très peu de retombées, voire même pas du tout, voire même de la souffrance pour les populations. C'est une vieille histoire dans laquelle nous entrons. Si on regarde en arrière, comme je le fais, c'est pas très très encourageant. Et si on regarde ailleurs, je pense au caoutchouc en Amazonie ou dans d'autres régions du monde, c'est pas très très encourageant non plus. On s'aperçoit que si on a fait des progrès, ils sont très 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 légers. En tout cas, voilà notre sujet du jour, le retour à sa source du portable de Guy Van Til. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut à tous. Le prochain Café Repère de Savigny-sur-Orge aura lieu demain, le mercredi 15 décembre à 20h30. C'est au restaurant Le Jasmin, rue Joliot-Curie, avant le pont, à gauche, sur le parking de la gare. On y causera lecture. Venez nous parler d'un livre que vous avez aimé. Alors, à demain, j'espère.
Salut à tous et à toutes en Côte d'Or. Prochain repère à Dijon le 14 décembre à 20h au Vieux-Léon, c'est 52 rue Janin. Donc le repère de là-bas, si j'y suis, va débuter par une imparfaite revue de la santé planétaire présentée par notre ami AMG Manu, avec cette fois un curseur écologique et environnemental. Et nous alternerons donc les poisons de notre 21e siècle, selon l'expression de Daniel qui nous avait jusque-là concocté ses revues économiques et financières. Quant à Hugo, il tentera lui une synthèse du dernier livre de pièces et main-d'œuvre aujourd'hui, le Nanomonde, Nanotechnologie, un projet de société totalitaire aux éditions de l'Échappée. Donc, à mardi, puis je suppose qu'on ne va pas omettre de parler de la loi l'OPSI 2. Là, c'est un vrai scandale. Salut, à bientôt.
Salut les AMG, le repère de Briouze dans l'Orne se tiendra le jeudi 16 décembre à 19h cette fois-ci au Brazza Bar Tabar, 22 rue du Docteur Petit. En effet, on peut apporter de quoi manger. Alors, jeudi 16, 19h au Brazza à Briouze. Salut.
Attends, voilà. Voilà.
C'était pas mal ce petit tour en moto, ça se passe très bien. Hein ?
La moto ne passe plus à partir de maintenant, et maintenant c'est à pied. Combien de temps de marche, Jack ?
Ah, mais pas de 20 minutes. Peut-être que c'est 30, même plus.
Voilà. Ah, Bazinga, lui, il fonce devant. Il connaît le chemin par cœur. On est sur ses terres.
Bazinga, il fait 100 mètres 90, Bazinga. Puis il est d'ici, Bazinga. C'est son terrain.
Je passe près d'un petit ruisseau.
Tu feras un WC ?
Ouais.
Il y a des morceaux de bois.
C'est deux rondins. Ouais. Et puis en plus, ils bougent les rondins. D'accord, donc un pied sur chaque. C'est un équilibre là. J'y vais doucement. Ouais, mais me stresse pas là. Ah, j'y suis presque. Voilà. Ouf. C'est le tour de Daniel.
Ouais. Sur une poutre, hein.
Là, on arrive dans un paysage. Voilà, j'allais le dire. C'est la Suisse. Des collines, des prairies et des vaches qui nous accueillent d'un beuglement.
travail pendant 20 minutes.
C'est marrant parce qu'il y a mon téléphone portable qui arrête pas de faire des interférences avec le microphone. Comme s'il reconnaissait là d'où il vient. On s'approche de la mine de coltan et il fait bip bip alors qu'il n'y a bien entendu aucun réseau. C'est le retour aux sources pour mon vieux Motorola. Moi, je me pose là.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la baisse où j'y suis avec Guy Vanti, le Conco, Kivu, Katunga, en route pour Oumoulé, dans le Massissi. Les gens, il n'y a pas beaucoup de Muzungu là, ici. Hein. Il y a tous les jeunes du village là, qui sont là avec leurs motos. Les dames là, qui sont groupées et qui vendent un peu de manioc, un peu de banane. Oh, les mamans avec les bébés. Ça va, les mamans?
Le Toto.
Le Toto, le petit Toto. C'est le carrefour, puis au-dessus, sur les collines vertes, les maisons basses en bois, en tôle. Et puis les jardins, les maraîchages. Et le café s'appelle Retrouvailles.
Et là, il y a un gars devant nous, t'as vu, il a un t-shirt avec le drapeau congolais et écrit « Fini la récréation
». En fait, quand le président de la République a pris le pouvoir, disons, après les élections, dans son discours, il a dit « Fini la récréation ». Et donc, tout le monde se pensait que la justice va commencer à faire son travail. Mais quand on arrête un petit voleur de poule, on dit « Voilà, fini la récréation ». Mais quand un ministre vole ou détourne des fonds, il n'y a pas de sanctions contre lui.
Et ça, on le voit à Goma. Quand on est arrivé en avion à Goma, on voit des villas formidables avec double terrain de tennis. Alors qu'on se dit, on arrive dans un des pays les plus pauvres du monde et on a des villas extraordinaires.
On a des villas, mais il n'y a pas de route. Tout ça, c'est pratiquement les fruits des détournements, des vols et tout ce qu'on connaît. Parmi ces villas, il y a des villas qui appartiennent aux officiers militaires qui continuent à conduire des opérations militaires aujourd'hui. Mais aussi, il faut comprendre que ça, c'est venu du fait qu'il y a eu des guerres répétées ici. La guerre, c'est une grande industrie économique.
C'est une grande activité économique qui rapporte à certains, pas à tous, mais à certains, et beaucoup, beaucoup à certains.
Il y a aussi les humanitaires qui aussi reçoivent de l'assistance humanitaire à partir de ce que le monde mobilise pour assister ces gens, mais tout n'arrive pas aux bénéficiaires. Ça, c'est aussi une réalité. Il n'y a pas que ça qui a changé avec les systèmes humanitaires. Lorsque vous passez sur cette route, vous allez voir des enfants qui vous demandent des biscuits. Vous allez voir, c'est tout le monde qui dit Muzungu, donner de l'argent. Donc même les gens qui produisaient, aujourd'hui savent qu'il y a des choses qu'on peut recevoir gratuitement. C'est ça la culture justement d'humanitarisme. L'humanitarisme
corrompt, c'est une corruption.
Ça nous a corrompus et pratiquement ça a tué pratiquement nos sociétés. C'est le désastre.
Voilà, tout le monde nous écoute. Et alors, c'est très organisé parce que c'est les tout petits qui sont devant, t'as vu? Les gens s'organisent tout simplement pour se mettre en cercle autour de nous. Hop, ça va de plus en plus grand comme ça. Oui. T'es d'accord avec ce qui a été dit?
Je suis d'accord, vraiment. Tout ce que ce monsieur vient de dire est juste. Nous sommes malmenés. Si nous manquons de la culture, si on cultive un peu, vous allez voir quelqu'un qui produit 10 sacs de haricots. Il ne trouve pas même 100 dollars. Ça, c'est regrettable. Mm-hmm. Nous qui sommes des cultivateurs maintenant, nous manquons comment vivre.
Voilà. Voilà. Il nous fout son tuyau d'échappement dans la gueule. Ça, c'est un camion qui transporte des minerais d'habitude.
Oui, il transporte beaucoup de. Souvent, c'est des minerais. Ouais, mais comme les minerais, aujourd'hui, il n'y en a plus.
Ouais, il n'y a rien du tout, il y a juste quelques voyageurs.
Oui, voyageurs.
Et le camion est vide.
Maintenant, ils vont prendre plutôt des haricots dans les dépôts et amener ça à Goma.
Pour Oumoulé. Oumoulé, où nous avons rendez-vous avec des creuseurs. Les creuseurs sont un peu comme des mineurs. On dit creuseurs dans cette région, dans le Kivu. Ils sont 50 000 dans le Kivu à creuser pour dégoter, pour essayer de trouver ce sacré minerai qu'est le coltan ou d'autres minerais comme la cassitérite. 50 000. Il y a une explosion autour de 2000, en 2000 exactement, sur cette demande de minerais par les grandes multinationales qui sont intéressées par ce minerai pour la construction de nos portables, de nos ordinateurs, et je le disais aussi pour l'armement. Et donc, quelqu'un comme ce paysan, eh bien, ont tout lâché et sont partis creuser partout où il pouvait y avoir de la cassitérite. Ça a donné une fièvre, ça a donné une exploitation, bien évidemment, mais ça a aussi augmenté encore la guerre qui était là, qu'on a décrit ces jours derniers, ces métastases du génocide et qui s'est répandu dans cette région, s'en est trouvé augmenté encore, mais a servi aussi, parce que l'exploitation des mines et des minerais est complètement contrôlée par les groupes armés de l'armée du Congo, groupes armés des FDLR, c'est-à-dire issus des groupes génocidaires, comme on les appelle, venus du Rwanda, et aussi groupe armé appelé CNDP, qui est un groupe armé en lien, allié avec le Rwanda voisin. Ce que je vous dis là a changé depuis, mais pour simplifier, on va s'en tenir à ces trois groupes qui contrôlent complètement ces régions, à la fois pour extraire et pour bénéficier de toute l'exploitation, et en même temps, bien évidemment, le minerai est à la fois le but et le nerf de la guerre. Tout ça se fait, bien sûr, au détriment des populations, l'exploitation de ces creuseurs, le racket et l'extorsion tout au long de la filière, depuis ceux qui creusent, ceux ou celles, on verra les femmes, qui transportent les sacs de minerais, ceux qui lavent, ceux qui négocient. Il y a ce qu'on appelle le salongo, c'est-à-dire le travail forcé par les militaires. Il y a des enrôlements d'enfants, il y a des massacres de population, des viols massifs, tout un tas de plaies et de malédictions liées à cette exploitation. Les donneurs d'ordre étant évidemment ailleurs, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Thaïlande, très très tranquillement. C'est cette filière, ce scandale de l'exploitation de ces minerais qui est dénoncé depuis bien longtemps maintenant, depuis plusieurs années, par des organisations non gouvernementales, par les Nations Unies même, qui ont publié nombre de rapports sur ce scandale dès 2001. C'est-à-dire au lendemain de l'explosion de cette ruée vers l'or gris, les Nations Unies dénonçaient déjà l'exploitation. Alors, où nous arrivons avec l'ami Guy Van Til, tout est suspendu, l'activité est suspendue. Une décision a été prise par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, le 10 septembre 2010, de suspendre l'activité minière. Extraordinaire. Alors quand on pense à tout cet enchevêtrement d'intérêts, de raquettes, tout est suspendu en effet. La raison, ce serait de couper le lien entre les groupes armés et l'exploitation minière. Pourquoi pas, on en doute, on est perplexe, mais l'autre intention serait, en accord avec les États-Unis, c'est d'assainir, disons, la filière, car ça finit, les consommateurs finissant par être un peu informés sur le sang dans le portable, ces portables du sang, d'assainir la filière, disons. Est-ce qu'on y croit vraiment à ça? Troisième argument, ce serait la fin des creuseurs artisanaux. Le gouvernement voudrait s'en débarrasser, et pas seulement le gouvernement, mais aussi bien les donneurs d'ordre, aussi bien les grandes instances internationales, pour remplacer cette activité par quelques grandes industries livrés aux grandes multinationales, dont des multinationales chinoises. Si bien que, au total, on ne sait pas très bien ce que signifie cette suspension. Toujours est-il que la tension monte, parce que, évidemment, que pour ces creuseurs et pour tous, c'est un gagne-pain quotidien. Donc l'activité est suspendue, la colère, l'inquiétude monte, et dans ces pays-là, quand l'inquiétude et la colère montent, on ne sait pas du tout où ça peut aller, même s'il y a une paix, elle est très très fragile en ce moment, et à tout moment, tout peut à nouveau péter et exploser. On est sur la route d'Oumoulé jusqu'à 16h, ensemble dans la Basse-Sujissou.
Même si l'Occident a bon dos, le pillage de nos minéraux, de nos lingots, et reproduire les schémas coloniaux. Car la terreur vue d'ici, c'est comme la terre vue du ciel. Ça paraît loin de nous, ça paraît irréel. Les enfants, la libération du trop aux Indiens. Ils voient l'Europe comme le Far West en vain et pour rien. En attendant leur chèque de la Western Union, rêve de dévaliser une délégation. Disent le pays en transition, la guerre une escale. Pour cet idéal, face au plan Marshall, le règne du maréchal l'a laissé bancal. Et disent que l'UNESCO n'aide que les pays cartes postales. Au lieu de s'affairer aux affaires courantes, car un tiers du pays est sans courant ni aux courantes. Les guerres ethniques renforcent le statu quo. Le Congo est un terrain de stratégo pour ces pays voisins devenus rivaux. Dans le pillage de ces minéraux, de ces lingots, et ça dégringole, le pays est sous contrôle. Et c'est pire qu'au temps de Léopold. Entre la loi de la jungle et celle des protocoles, la révolution a besoin de bénévoles. Et tant que l'opinion publique abdique, le Congolais reste le nègre de l'Afrique. Même si l'Occident a bon dos, le pillage de nos minéraux, de nos lingots, et reproduire les schémas coloniaux. Car la terreur vue d'ici, c'est comme la terre vue du ciel. Ça paraît loin de nous, ça paraît irréel.
Voilà, là, on n'est plus tout à fait sur terre, là, on est dans l'eau. On est dans un passage particulièrement difficile. Il y a eu des inondations dans ce coin. Tous les gens du village nous aident à passer. C'est de la boue partout. Mais on avance quand même. Ça, c'est assez extraordinaire. Il y a tous les gens du village qui sont là, qui donnent un coup de main. Et on a l'air de s'en sortir. Jusque là, ça va. Et on s'est sorti de cette passe. Eh bien, dis donc, c'est incroyable, ça. Ça alors, voilà, voilà. Bah, bravo Toto. Toto, c'est le chauffeur, on applaudit Toto. C'est très très costaud. Là, on est dans une région extraordinaire qui ressemble à une sorte de super Normandie. C'est vert, mais vert, avec des vaches, oui, des vaches, des fermes. Là, c'est des huttes. Et voilà, on repart. C'est sans doute l'endroit le plus difficile, enfin j'espère. Mais c'est un tout petit peu inquiétant pour le retour, c'est qu'il pleut. Donc, au retour, ça ne va pas être mieux. Bravo. Hein.
Il y a des fois, lorsqu'il y a des coupures de route comme ça, ces mêmes gens ont le travail de transporter les gens au dos. Ils vous mettent au dos et
sur le dos.
Il faut traverser les... Oui. Ça fait donc une bonne affaire.
Pour eux, ça fait une bonne affaire. Ah oui, les inondations sont une bonne affaire parce que ça leur donne l'occasion de porter les gens sur leur dos et de leur faire traverser la rivière. C'est ça. Les mille petits business. Alors sur la route, on voit des livreurs de charbon, des gars qui en vélo, sur leur vélo, portent des quantités de sacs de charbon. C'est incroyable, ça monte à 2-3 mètres. Ils portent ça en équilibre sur leur vieux biclos pour apporter le charbon de bois qui est nécessaire à Goma. Et sur la route, il y a un endroit où il faut payer des taxes. Alors, il y a des militaires qui arrêtent les gars en vélo et puis qui les taxent. Il faut donner de l'argent. Et où va cet argent? Bon, c'est simplement du racket. On n'appelle pas ça du racket, on dit des taxes. Et ça va directement dans la poche du commandant. Voilà quelques images sur la route d'Oumbouré. Évidemment, nous, s'amuse, franchement. Mais si on se met à la place des habitants, c'est pas très rigolo. Cette absence totale d'infrastructures qui rend tout déplacement lent, lourd, pénible, et qui absorbe une énergie humaine considérable, même si, bien sûr, il y a le pittoresque de la débrouille. Le pittoresque de la débrouille, c'est le pittoresque de la misère, c'est le pittoresque du chaos. Donc on est avec Bazinga, celui qu'on va appeler Bazinga, qui est le président de la coopérative des creuseurs d'Oumbouré, qui tient à ce qu'on vienne voir un peu comment ça se passe sur le terrain, qui veut nous présenter cette mine, qui veut nous présenter ces creuseurs, leurs conditions de travail et aussi quelle est leur condition de vie. Après que maintenant que le gouvernement a décidé de suspendre complètement l'activité dans cette région. Encore une fois, je le rappelle, ce qu'on va voir là, c'est les conditions difficiles, cette sorte de l'économie du chaos, enfin le bénéfice du chaos, appelons ça comme ça. Mais surtout, ne jamais perdre de vue dans cette histoire que l'exploitation de ces gens, de cette région, des gens de cette région, se produit et fait avec la complicité des entreprises occidentales, des gouvernements occidentaux, des diplomates en présence sur le terrain qui savent parfaitement ce qui se passe, et de ce qu'on appelle les institutions multilatérales, telles que évidemment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il faut pas être dupe. Il y a une exploitation locale. Le petit officier, le petit commandant qui pique, évidemment, c'est quelqu'un qui va gagner $30 par mois de toute façon. Donc, voilà, tout ce racket doit pas être excusé. C'est malhonnête, bien évidemment, mais une absence totale d'État et de structure dans ce pays qui n'est pas le seul dans cette situation. Alors aujourd'hui, il y a une paix relative entre les différents groupes armés qui s'opposaient. Mais est-ce qu'ici il y a eu des affrontements dans la zone où nous sommes ?
Oui, ici il y a eu des affrontements depuis les années 2006. Cette zone, on l'a appelée une zone rouge, c'est-à-dire une zone où il y avait des affrontements intenses. D'une part, il y avait le gouvernement congolais avec les FARDC, c'est l'armée gouvernementale, qui occupait une zone. Il y a une autre zone qui était occupée par le CNDP, qui est le Congrès national pour la défense du peuple. C'était une milice constituée essentiellement de Tutsis congolais, mais aussi auxquels étaient mêlés des anciens démobilisés du Rwanda, mais aussi des enfants des réfugiés congolais qui vivent au Rwanda. Ça constitue un autre groupe. Mais il y avait un autre groupe qui était constitué des Hutus qu'on appelle Pareco, qui aussi défendait les villages. Mais les Pareco étaient pro-gouvernemental, se ralliaient du côté gouvernement.
Voilà, il y a trois acteurs. Pour simplifier outrageusement, on peut dire que c'est finalement une métastase du conflit du Rwanda, avec un troisième acteur. Au Rwanda, il y avait les Hutus et les Tutsis, et ici, on est au Congo, République démocratique du Congo, et il y a un autre acteur qui est le Congo, c'est-à-dire, en l'occurrence, les FARDC, les forces congolaises. Mais les forces congolaises, tantôt, ont basculé du côté Hutu, et tantôt, du côté Tutsi.
Oui, exactement, c'est ça qu'il faudra comprendre, que la guerre qu'on a connue au Congo, c'était une extension, justement, de la guerre rwandaise, c'est-à-dire qui s'opposait entre Hutu et Tutsi et qui a été déversée sur le sol congolais dans la région ici.
Oui, est-ce qu'il y a des creuseurs qui étaient dans la lutte armée auparavant, dans les luttes armées? Oui, bien sûr.
Difficile à dire exactement, ouais, que tout le monde est passé par là, mais aussi si les gens, l'identité change. On a vu des élèves se transformer en miliciens, on a vu des enseignants se transformer en miliciens, on a vu même tout le monde se transformer en miliciens juste pour, dit-on, défendre la patrie. Et donc, il est difficile de dire que voilà, c'est là qui exploite les minerais, aussi tous les jeunes ne sont pas des ex-miliciens.
Oui, alors il y a les miliciens pour défendre la patrie, et puis il y a aussi constitué un groupe armé qui exploite et qui détrousse les négociants ou les creuseurs.
Exactement, parce que Dans un milieu comme celui-ci, où la plupart des jeunes, tous ils viennent à défendre leur patrie. Mais qui parle de patrie aussi, parle de leur minerai, parle de leur mine. Ça fait partie de leur patrie. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient attaquer le village, qui va défendre ce village? Ce sont les jeunes, justement, ce village, qui ne vont pas accepter qu'il y a quelqu'un qui puisse venir commencer à exploiter leurs minerais, et donc ils vont pratiquement s'attaquer contre lui.
Et pour défendre éventuellement les haricots du village, il y avait des groupes Maï-Maï qui se constituaient.
Oui.
Des sortes de milices villageoises qui défendaient les villages.
On a connu dans la région à peu près 30 groupes armés. Chaque village ou chaque ethnie avait son groupe Maï-Maï. Et donc, comme la paix est encore fragile, nous pensons que les autorités congolaises, lorsqu'ils prennent des décisions comme la suspension de l'exploitation minière,
prennent des risques.
C'est prendre des risques, justement, parce que ça risque de réveiller encore des anciens conflits pour qu'ils aillent se battre.
Voilà, Arubaya. Arubaya, on est en panne, on est arrêté. On est arrêté parce que la piste est vraiment mauvaise. Là, on voit devant nous, c'est un gros tas de boue avec une rivière au milieu. Et on voit qu'il y a deux camions qui attendent depuis hier. Ah oui, il y en a un autre là. Il y a deux 4x4 d'humanitaires qui sont enlisés. Et donc, c'est pas facile de passer. Alors, on va essayer, on va se lancer à l'aventure en moto. Parce qu'ici, le moyen de déplacement, c'est la moto. Donc, on va prendre 4 motos et on va essayer de passer de l'autre côté pour arriver chez nos amis, les mineurs, les creuseurs qui nous attendent. Voilà. Et comme d'habitude, c'est le show. C'est nous qui faisons le Muzungu show. C'est le Muzungu show. C'est-à-dire que dès qu'on arrive quelque part, les gens nous regardent. Il y a des gens qui se demandent comment on peut être blanc à ce point-là. Hein? Et ça, c'est Rubaya.
C'est Rubaya, c'est un centre de négoce.
C'est un centre de négoce. C'est là que les minerais arrivent et qui sont négociés. Hein? Mais sauf que rien ne fonctionne en ce moment parce que tout est suspendu.
Tout est suspendu et c'est pour cela que beaucoup de gens d'ici disaient que si ils auraient su qu'il y aurait des journalistes qui passeraient ici pour enregistrer les sons de personnes ou de la population locale ici, ils auraient dû donner une solution.
Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah, ils regardent le match de foot, non? Voilà. Là-haut, sur la colline, il y a une école. Voilà, on voit les élèves. Et en contrebas, derrière nous, ça, on le voit pas, il y a un terrain de foot. Et autour du terrain de foot, il y a une foule. Il y a probablement un but qui vient d'être marqué, c'est ça?
C'est ça, justement.
Et les mômes là-haut qui regardent, mais à 300 mètres. Le match de foot sont en train de se réjouir parce que un but a été marqué.
Ah, comme c'est la récré maintenant, ceux qui ne regardent pas le foot nous regardent nous.
Ah oui, il y a de plus en plus de monde. On a vraiment, quel public, on a un public formidable.
Ça, on devrait dire à médiamétrie.
Voilà le Muzungu show. N'empêche que faudra jamais oublier de faire état de cette vitalité formidable quand même. Hein. On raconte les malheurs, les souffrances, les exploitations, etc. Tout ça est absolument vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'était cette increvable vitalité des gens, des populations et une vitalité pas seulement physique, aussi dans les têtes, dans les appréciations de la situation, dans tout quoi. C'est vraiment on le trouve formidable quoi, en un mot. Alors, on continue notre route avec entêtement. Nous voilà tous les quatre, donc Bazinga, notre ami de la coopérative des Creuseurs, Jacques, qui est notre confrère journaliste, Give et votre serviteur, chacun sur une moto. Les motos sont apparues il y a quelques années dans cette région et ça a été vraiment un bonheur formidable. C'est des petites motos qui sont fabriquées en Inde, je crois, qui sont toutes les mêmes. Je pense que c'est les moteurs de 125 et les taxis, donc les chauffeurs, enfin les conducteurs de ces motos sont d'une habileté absolument extraordinaire. Ils sont des virtuoses de la moto.
Vous avez compris qu'on roule sur des terrains, des pistes défoncées, avec de la boue, avec de l'eau, avec des arbres qui tombent en travers, en route, quoi qu'il en soit.
Voilà, les motos sont arrivées. Allez. Ah ouais, c'est très bien. Et c'est parti pour la suite du voyage. En tout cas, si Dieu veut, on arrivera. Il y a l'odeur de la terre mouillée, du bois brûlé. Là, si on passe sous les quelques eucalyptus. Et d'un côté, la colline de gauche est recouverte sur toutes ses pentes, mais des pentes très très raides, de petites parcelles. Et de l'autre, c'est des prairies où on voit quelques vaches. Ah, un nouveau terrain boueux, alors on ralentit. Oh là là là, ça patine, mais ça passe. C'est toujours des dames et des messieurs avec leurs machettes qui vont au champ ou qui en reviennent et qui nous regardent morts de rire. Ah, un petit pont, celui-ci a tenu. Là, on est tous descendus et pour pouvoir passer, là, il y a une famille là, qui n'arrive pas à faire avancer sa moto. Et tout le monde passe pour les aider un coup. Oh oui, parce qu'il y a les deux dames là qui arrivent du mal à pousser. Et eux, ils sont à 3 plus 4 gros sacs de riz.
Tu veux que je te dise quelque chose maintenant? Dans le genre avoir des privilèges. Mais moi, je suis sur la moto du président de la coopérative des motards de la région. Et tu sais quoi? Qui m'a avoué? C'est la première fois qu'un blanc monte sur sa moto.
En tout cas, là, j'ai une agitation. Hop, c'est reparti. Le sursis était bref. Je cours vers mon motard qui est devant là. Et c'est reparti. Suite au prochain épisode. Si on arrive entier. Attends, chef. Tu dis polé polé. Hey. Polé polé, ça veut dire doucement, tout doux.
En tout cas.
En tout cas. Voilà. J'ai dit descendre de la moto parce qu'on s'est complètement enlisé. Voilà. C'est dommage, on profite pas trop du paysage parce qu'on a les yeux rivés sur là où on met les pieds pour pas se vautrer. Ouf. Ah, là ça revient à la gadoue. Tout le monde se marre. Je sais pas si t'as remarqué Daniel, mais Bazinga, ces baskets blanches là.
Ouais.
Elles sont toujours aussi blanches.
Ouais, 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 tant pis.
On n'est pas rendu, hein. Là, on voit la carrière derrière les eucalyptus. On aperçoit une faille rose, rouge. Et là-haut, c'est le village, des huttes découvertes de paille et des maisons.
J'ai l'impression que c'est ça le village.
C'est ça le village, oui.
C'est là où on va?
Oui. Nous allons plutôt là où il y a la carrière.
Ah ouais, c'est un peu moins loin, je crois.
Ouais,
c'est
moins loin.
Voilà, on arrive dans la carrière. Et c'est ici que ça commence, la carrière. Et notre copain Bazinga, lui, dès qu'il arrive là, il est comme un aimant, quoi. Il commence à trier les caillasses, t'as vu? Regardez, à sous-peser. Tu vois là-bas, en ce moment, interdiction formelle de creuser, suspension formelle de toute activité. Là, on est dans ce paysage incroyable
où travaillent d'ordinaire les creuseurs, et c'est interdit. Sauf que là-bas, si tu regardes entre les deux bouquets d'eucalyptus, là-bas au pied des arbres, ouais, y a un trou, et on aperçoit un gars qui est en train de creuser. Voilà, on creuse quand même. On est dans la zone d'Oumoulé. Oumoulé. On nous avait dit, oh, c'est la plus facile à
accéder.
Oui, c'était l'accès le plus facile.
Mais c'est le contraire. Mais tu sais,
voiture, embourbage, moto. Et maintenant, on est à pied là, dans ce paysage. Mais c'est magnifique, c'est absolument formidable. Enfin, on est à la recherche des creusins. Allez, vas-y, il faut qu'on y aille là.
Que la pluie arrive.
La pluie arrive. Il manquerait plus que ça. On arrive dans un petit village des creuseurs.
Bonjour.
Avec des huttes et des paillotes. Et des cases. En terre, un torchis. Avec des toits de paille. Là, le monsieur écoute la radio. Bonjour. En faisant avant son âge. Et voilà la pluie qui commence.
Bonjour. Oui.
On va s'abriter ?
Oui. On va se mettre à l'abri.
Oui.
Ah bah il y a une petite paillote là à côté de la pharmacie de l'espoir, écrit à la craie sur les planches, et là il y a un restaurant. Et voilà, beau là. Et voilà, la pluie redouble. On rentre juste à temps.
Bon, on va parler avec les gens qui sont là. Alors vous êtes des creuseurs ?
Nous sommes des creuseurs de minerais.
Tous les trois ?
Oui.
Combien vous êtes de creuseurs ici ?
Bon, je pense toute la zone du Massissi, tous sont des creuseurs. Tous les jeunes, tous les hommes, ils vivent tous par des minerais. Et les paysans aussi vivent grâce aux minerais.
Ah, ok. Expliquez-nous ce que c'est le travail du creuseur.
Bon, aujourd'hui, nous sommes dépourvus de travail puisque on a arrêté le travail, nous sommes là, nous sommes des chômeurs. Il n'y a plus de travail.
Oui, c'est-à-dire que le gouvernement a pris une décision d'arrêter tout le travail d'extraction des mines.
Bon, nous sommes là, nous vivons à travers les vols seulement. Nous travaillons, nous creusons les minerais, puisque les minerais nous aidaient à vivre aisément, sans aucune difficulté.
Ouais. Vous avez parlé des vols, que vous vivez aujourd'hui seulement, vous faites un peu de vols. Qu'est-ce que ça signifie?
Bon, puisque on a arrêté le travail de creuser et minerais, on est là pour voler, c'est-à-dire on creuse pendant des heures et on rentre.
Vous êtes devenus des creuseurs clandestins.
Oui, on est devenus des voleurs puisque nous avons vu que une fois si nous ne creusons, nous risquerons de mourir. Alors, au lieu de mourir, il faut aller voler.
Et ça, vous allez quand, la nuit?
Non, le matin. Tôt le matin.
Vous allez
4h.
4h du matin,
oui.
Avant que la police des mines soit réveillée?
On fuit. On fuit.
Oh là là, quelle pluie.
Ça redouble là. Hein. Ça redouble la pluie. En plus, comme on est sous une petite baraque en tôle, ça prend d'autant plus d'écho.
Ça va être bien le chemin du retour. Comment vous creusez? Vous faites des trous? Vous descendez? Comment ça se passe?
Non. On monte sur les pentes et ouais, puis on fait descendre la boue et puis on creuse comme ça.
D'accord, je comprends. Vous faites tomber un bout de la carrière et puis vous récupérez en bas.
Oui. Avec les bêches.
Et qu'est-ce que vous prenez comme minerai?
Bon, nous ramassons les manganèse et le coltan.
Et le coltan?
Oui. Ça nous aide quand même, après avoir récupéré ces minerais, ça nous aide à scolariser nos enfants, même de nous acheter des habits, même à quoi vivre.
Mais est-ce que tu sais à quoi ça sert le coltan? Qu'est-ce qu'on fait du coltan après?
Bon, cela moi je ne sais pas. Cela, moi, je ne sais pas.
Je vais te montrer. Ça, oui, c'est mon téléphone portable.
Oui.
Tu vois?
Oui.
Eh bien, dans mon téléphone portable, il y a du coltan. Oui. Dans cette machine-là, oui. Dans ce petit appareil lumineux là qui nous éclaire, oui. Eh bien, il y a du coltan qui vient d'ici.
Oui.
C'est-à-dire que c'est vous qui creusez.
Oui, c'est nous, hein, qui creusons.
Le coltan, ensuite, il va...
D'ici, il y a un centre de négoce appelé Roubaïa.
Roubaïa, c'est là où notre voiture est en... Enfin, pas la voiture est en panne, mais on a été obligé de s'arrêter à cause de la boue. À Roubaïa, là, c'est le négoce. Après, c'est transporté en camion jusqu'à Goma. Oui. Oui. Et après, ça va ailleurs dans le monde. Voilà, c'est...
Et après, ça va en Thaïlande, où c'est raffiné.
Voilà.
Et après, ça repart en Asie, où c'est fait en microprocesseur, et ça arrive sur les marchés du monde occidental.
Alors, on verra comment tout ce marché, en fait, est contrôlé par des grandes multinationales qui s'entendent entre elles sur les tarifs et pour dominer entièrement ce marché. Mais on se trouve face à une de ces contradictions dont l'histoire des minerais et de l'exploitation coloniale a le secret, c'est-à-dire qu'on a une innovation technologique quand même formidable, qui est le portable, 4 milliards de portables sur la Terre, et en même temps, une désolation complète et une malédiction, peut-on dire, pour les habitants qui sont là, sous la pluie, attendant que le travail... reviennent un travail difficile, mieux que rien, comme ils disent, et rien, quand on dit rien dans ces régions-là, on sait très bien de quoi on parle, c'est mieux que rien, mais ce mieux-là, eh bien, est interrompu et est suspendu, et on attend. Et est-ce que tu peux me faire voir du minerai? Parce que moi, je n'en ai jamais vu du coltan. J'aurais bien en voir du minerai.
Bon, il y en a, mais ça...
On peut les chercher si...
Tu peux me montrer? Il pleut plus, là. Ah, ça, c'est le boucher, lui.
Ah, ouais.
Qu'est-ce que c'est? C'est une chèvre, c'est de la chèvre,
ouais.
C'est le restaurant.
Oui, c'est le restaurant.
Ah, c'est le restaurant. Il y a des morceaux de viande sur une planche, là.
Il est accroché un peu.
Ah, ouais. Restaurant Bissot.
Restaurant à Bissot.
La Bissot, donc, en lingala, ça signifie c'est notre restaurant.
Notre restaurant.
Il y a la carrière minière qui est à côté, oui. C'est à quelques mètres. Alors, après avoir beaucoup travaillé, ils viennent ici juste pour manger. Et peuvent encore gagner...
Les travaux sans toutefois aller à la maison, quoi.
C'est une petite halte, quoi. Les enfants, ils creusent, là?
Non, ils ne creusent pas. Ils ont aussi l'information que vous serez ici. Ils sont venus vous voir.
Les Bozongo.
Oui, les Blancs.
Alors ça, c'est rare. Bon, et qu'est-ce qu'elles font, les mamans, comme activité? Vous n'allez pas creuser, vous, les mamans, là?
Nous, notre travail, c'est de préparer de la nourriture.
Et vous portez les sacs de minerais jusqu'à Roubaïa?
Oui, nous transportons ça sur le dos.
Sur le dos?
Mmh.
Et combien ça pèse un sac?
Ça commence par 30 kilos. Et ça nous fait fatiguer.
Et combien vous gagnez pour 30 kilos que vous transportez là-bas?
Non, c'est vraiment très peu d'argent, c'est seulement 1000 francs, l'équivalent d'un dollar. À cause de la pauvreté, nous sommes obligés de transporter les 30 kilos. Et vous transportez aussi votre bébé, comme moi qui ai un bébé. Je dois aussi transporter le bébé. C'est vraiment très dur.
On y va?
Ok, on va voir un peu.
Allez, c'est reparti. Il faut y aller doucement, pôle et pôle.
Voilà ce qu'il y a dans nos portables, des femmes qui font 50 km pour 1 dollar en portant un sac de 30 kilos sur le dos, entre autres. Merci à tous, on continue demain. Montage Mathias Barré, Agnès Lebot, c'était un reportage avec Guy Vanctil. Merci à Jacques Caora, notre confrère, journaliste, et à Toto, le chauffeur héroïque, ainsi qu'à Bazinga, et à tous ceux de la coopérative des creuseurs d'Oumouré. Et puis tout à fait autre chose qui n'a rien à voir, vraiment rien à voir, le coffret DVD du film de Pascal Boucher, Bernard, ni Dieu, ni chaussettes, est sorti, figurez-vous.
C'est un très beau film qui raconte la vie de ce paysan, bosseron, réfractaire, libertaire et amateur des poèmes de Gaston Coutet. Gaston Coutet, formidable. Tout ça est disponible sur le site internet des Mutins de Pangée, nos amis des Mutins de Pangée. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Anna Armstam et Jean-Philippe Jeanne, Coy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Le Bot et Marina Touillez. Attends vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Bonjour, j'aimerais une tenue pour la campagne, s'il vous plaît.
Admirez ce pendentif papillon incrusté d'émeraude, ainsi que cette bague en forme de rose en rubis.
Superbe. Et pour accompagner mon mari à la pêche, je pensais prendre un lac de diamants.
Vous voulez dire une rivière de diamants, madame?
Lac, rivière, mer, océan, tant que ce n'est pas un petit ruisseau. Allez, faites-moi un paquet cadeau, c'est quand même pour moi.
Les pierres précieuses vous vont si bien. Les bijoux précieux, aujourd'hui chez votre bijoutier.
Formidable, hein, cette pub qui tombe pile poil sur les pierres précieuses. Certaines de ces pierres précieuses viennent peut-être bien des régions voisines de celles où nous sommes et où nous retournerons demain à 15h dans la base si j'y suis. Il est 16h sur Inter, je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Il y aura une mission d'information parlementaire sur le Mediator. Ce médicament des laboratoires Servier, un antidiabétique également prescrit comme coupe-faim, est accusé d'être à l'origine de la mort de 500 personnes en France. Il a été retiré du marché en novembre 2009. Les députés socialistes ont donc obtenu gain de cause. La mission devrait débuter ses travaux à la rentrée de janvier. Selon la députée socialiste Marisol Touraine, l'un des objectifs sera de cerner les dysfonctionnements en cause au niveau de l'entreprise ou des processus de pharmacovigilance et de proposer des recommandations. La prise d'otage dans un foyer d'hébergement de Mulhouse s'est terminée sans violence. L'homme qui retenait deux travailleurs sociaux s'est rendu après des négociations avec le groupe d'intervention de la police nationale de Strasbourg. Le forcené âgé de 21 ans était armé. Il voulait entrer en contact avec son ancienne compagne résidente du foyer. Hier, ce sont également les hommes du GPN de Strasbourg qui étaient intervenus pour mettre fin à la prise d'otage dans une école maternelle de Besançon. Hospitalisé hier après-midi, midi, le jeune preneur d'otages de 17 ans a été transféré dans la matinée au commissariat de Besançon, où il est entendu par les enquêteurs. La CGT Police se démarque. Dans un communiqué, le syndicat condamne la manifestation de policiers devant le tribunal de Bobigny vendredi dernier. Ils protestaient contre la condamnation de 7 de leurs collègues accusés d'avoir menti à des peines de prison ferme. Il n'est pas question de cautionner les faits commis par ces policiers qui déshonorent la profession dans un secteur déjà extrêmement sensible, la Seine-Saint-Denis, écrit la CGT Police, qui souligne cependant le malaise grandissant de la profession. À trois voix près, Silvio Berlusconi évite la chute de son gouvernement. La Chambre des députés a voté la confiance au président du Conseil italien grâce au revirement de deux députés proches de son ex-allié Gianfranco Fini. L'avenir de la coalition de centre-droit au pouvoir en Italie reste cependant incertain, avec une majorité aussi fragile. Au Soudan, il ne fait pas bon manifester pour les droits des femmes. Les autorités ont interpellé une trentaine de femmes qui protestaient contre le sort d'une jeune femme fouettée par des policiers et dont les images circulent sur Internet. Elles sont accusées de troubles à l'ordre public. Un journaliste correspondant de la BBC à Khartoum a par ailleurs reçu des coups et son matériel a été confisqué. François Fillon fait son mea culpa à propos de la polémique sur la gestion des intempéries en France la semaine dernière. On n'a pas été bon en matière de communication sur la neige et moi le premier, a admis le Premier ministre, selon des propos rapportés par des participants à la réunion hebdomadaire du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Depuis Moscou, il était en déplacement. Le Premier ministre avait notamment mis en cause les prévisions de Météo France. Il faudrait s'astreindre à ne jamais parler quand on est loin, a ajouté François Fillon. Bientôt une nouvelle chaîne sur la TNT payante. C'est Foot, le projet de chaîne de la Ligue de football professionnel, a été retenu par le CSA face à deux autres projets. La chaîne C'est Foot doit permettre aux clubs professionnels français d'être un peu moins dépendants des droits télévisuels. La Ligue n'exclut pas de diffuser elle-même sur cette chaîne payante certains des matchs qui ne trouveraient pas preneur auprès des autres chaînes de télévision. Et puis on les considère comme une répétition générale des Oscars. Les Golden Globes ont sélectionné Le Concert, un film du réalisateur français Radu Mihalianu, dans la catégorie des meilleurs films en langue étrangère. Organisé par l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, les Golden Globes seront remis le 16 janvier.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Marie-Pierre Planchon.
Ce soir, le parcours d'une jeune femme brillante et déterminée. Aujourd'hui directrice d'une école de musique et de danse, cette chef d'orchestre au féminin s'emploie à faire découvrir la musique dans les banlieues. Zaya Ziwani donne le la ce soir, à partir de 21h.
France Inter et le Théâtre de la Ville présentent jusqu'au 25 janvier, Rêve d'automne. Une pièce du Norvégien Jon Foss, mise en scène par Patrice Chéreau. Un homme, Pascal Grégory, et une femme, Valeria Bruni-Tedeschi, qui se sont désirés il y a longtemps, se retrouvent. Un texte charnel sur le désir fou, l'amour et la mort, qui fait partie de la vie. Retrouvez Rêve d'automne dans les émissions de France Inter. La différence.
À 16h04 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver le carrefour de l'Odéon présenté par Frédéric L'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Au début de cette saison, à la rentrée, je vous avais proposé d'évoquer quelques compositeurs, pianistes ou en tout cas hommes de clavier. Alors il y avait eu Mozart, Beethoven, Rachmaninoff, Bach, plus hommes de clavecin ou d'orgue, bien sûr, Brahms, Schumann, Frédéric Chopin, un des plus notables, évidemment, Félix Mendelssohn. Et puis maintenant, j'ai envie de continuer, vous proposer par exemple Dmitri Shostakovich, qui a été un virtuose tant qu'il a pu travailler suffisamment, parce qu'il était beaucoup occupé, il était très pris par son métier de compositeur. Enfin, il a gagné sa vie en jouant dans des cinémas et il pouvait faire beaucoup plus, il pouvait quand même jouer avec Rostropovitch et autres difficultés tout à fait redoutables normalement. Grand pianiste, immense compositeur, je vous propose, alors là il n'y a pas de piano du tout, c'est le compositeur qui parle, le bal au château tiré de la bande originale du film Hamlet, a été composé par Dmitri Shostakovich lui-même. Thank you. Bal au château, tiré de la bande originale de Hamlet, donc une version cinématographique de 1964, musique de Dmitri Shostakovich par l'orchestre du Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Ricardo Chailly. Prokofiev fut aussi un grand pianiste, même percutant, parce qu'il se vantait de sa sonorité assez métallique, assez agressive. Il était un peu comme ça dans la vie, capable de dire ses quatre vérités à n'importe qui. Et son jeu était très très virtuose, presque un contondant. On a envie de dire ça. Je cherche un terme qui montre cette force incroyable. D'ailleurs, l'amour de Prokofiev pour la mécanique n'est pas innocent dans cette histoire-là. Il aimait beaucoup les voitures, il en a eu de très belles d'ailleurs. Et ce qui brillait